Il est 7h30. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les salariés d'Ascoval se sont-ils réjouis trop vite? Leur repreneur britannique British Steel serait en faillite, les syndicats l'ont découvert hier. Sur place, c'est à nouveau l'angoisse. Des familles syriennes qui cherchent à retrouver leurs proches victimes de l'État islamique et disparus depuis des mois. Ces familles se sont réunies hier à Paris. Reportage à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, l'appel du président français et de la première ministre néo-zélandaise à lutter contre le terrorisme sur Internet. Ce sera l'image du jour. L'heure de vérité pour des centaines de milliers de lycéens. Aujourd'hui, avec les premiers résultats ce soir à 19h de Parcoursup. Et puis, on parlera aussi d'une révolution pour les diabétiques, un pancréas artificiel où les constructeurs français sont en pointe et de la folie NBA en France. Le basket américain est devenu le sport numéro 1 sur le numérique.
Avec Alexandra Bensaï, dans 20 minutes à 7h50, l'activiste féministe Ina Shevchenko.
France Inter.
Les salariés d'Ascoval, Sébastien, à nouveau saisi par le doute.
Il y a moins de deux semaines, le 2 mai dernier, les 268 salariés se réjouissaient à l'annonce de la reprise de leur aciérie de Saint-Saulve dans le Nord. Après des mois de lutte et un premier échec avec le franco-belge Altifort, ils obtenaient enfin de la justice la certitude de garder leur travail, le tout grâce au géant de la sidérurgie British Steel. Mais hier, nouvelle désillusion. Selon la presse britannique, le nouveau repreneur serait en fait au bord de la faillite, à la recherche de 86 millions d'euros. Dans la soirée, le groupe a bien cherché à rassurer tout le monde en promettant de respecter, dit-il, ses engagements. Même optimisme du côté de Bercy, qui maintient sa part de financement prévue. Mais en attendant, sur place, à Saint-Saulve, l'euphorie a de nouveau fait place à la plus grande méfiance. Les précisions de Raffaella Birichente, France Bleu Nord.
Avec Altifort, la reprise n'avait duré que 18 jours, c'était déjà difficile à encaisser pour les salariés. Et là, la reprise n'est même pas encore effective, qu'il y a déjà des difficultés dans le groupe. On va devenir des champions du monde, on fait toujours mieux, rayait jaune hier le porte-parole de l'intersyndicale, Bruno Kobzinski. Le sidérurgiste anglais assure finalement dans un communiqué que le site nordiste ne sera pas touché, mais pas de quoi rassurer Nassim Bardi, délégué CGT.
On sera toujours méchant, c'est fini, la confiance, on l'a perdu, c'est fini, on sera toujours méchant. Tout le temps. C'est fatigant, c'est usant, c'est très très dur. C'est pas possible, nous, là, il y a plein de coups de fil de la part des salariés. Ce qui nous arrive, c'est franchement, c'est un cauchemar. Les salariés, ils sont dépités, là. C'est une mauvaise blague, et puis, humainement parlant, c'est pour gérer tout ça, c'est dur. Parce que notre crainte, c'est quand même qu'un salarié fasse une connerie.
Les syndicalistes doivent se réunir aujourd'hui dans l'usine qui est encore à l'arrêt, faute de commandes. Ils espèrent obtenir plus de garanties de leurs repreneurs. En attendant, l'État, la région et Valenciennes Métropole confirment leur soutien de 47 millions d'euros aux sidérurgistes anglais.
Raffaella Birichente de France Bleu Nord. En bref, toujours en économie, le plan de départ de Carrefour sera signé aujourd'hui. Deux syndicats, Force ouvrière et la CGC, se sont engagés à valider l'accord de rupture conventionnelle collective. Au total, 3000 départs maximum, dont 1200 postes supprimés. Ni la CGT ni la CFDT n'ont voulu signer. La CGT, en congrès à Dijon, qui a par ailleurs envoyé un message de défiance très clair à l'égard de la stratégie de la direction. Seuls 70% des militants ont approuvé hier le bilan du secrétaire général Philippe Martinez, très loin des scores de ses prédécesseurs.
Il est 7h34, elles ont perdu un frère, un père, un mari, Sébastien, disparu aux mains de l'État islamique.
Ces familles syriennes cherchent depuis des mois à retrouver la trace de leurs proches depuis que les djihadistes ont perdu la bataille territoriale en Syrie. Elles se sont retrouvées hier afin de s'organiser en collectif et pour demander de l'aide aux pays de la coalition internationale, la France, les États-Unis. Qu'est-il advenu de ces victimes de Daesh? Claude Guibal a rencontré les familles hier, réunies à Paris.
C'était la nuit. Firas, mon mari, était au café avec un ami à Raqqa. Alors qu'il rentrait à la maison en voiture, ils ont été arrêtés par des hommes cagoulés et armés. Ils l'ont emporté avec eux et on ne sait pas ce qu'il est devenu.
C'était le 20 juillet 2013 et depuis, Radir Naoufel cherche à retrouver son mari, Firas Hachsaleh, un des premiers à s'être opposé à Daesh à Raqqa. Comme lui, il serait près de 8000 à avoir disparu entre les mains de l'organisation djihadiste. Dans les anciens territoires administrés par Daesh, on ne sait cesse de découvrir des fosses communes, des corps anonymes de toute provenance réenterrés à la va-vite sans enquête médico-légale ni prélèvement d'ADN. L'avocat syrien Anwar Al-Bouni parle de catastrophe.
Daesh est fini. C'est maintenant qu'il faut agir, tant qu'il reste encore des preuves exploitables sur place. Si on laisse faire ainsi, toutes les preuves seront détruites, perdues. Il n'y aura plus rien ni personne pour nous donner des réponses.
Pour Nadim Houri de l'ONG Human Rights Watch, les pays de la coalition pourraient aider les familles en communiquant les informations perçues auprès des djihadistes faits prisonniers et des documents collectés.
Où sont ces documents essentiels aujourd'hui pour donner une réponse à ces familles? Il ne peut y avoir de victoire qui ne prend pas en compte les intérêts des victimes.
Des victimes dont le sort hante des familles entières épuisées par cette quête sans réponse.
Claude Guibal sur le terrain diplomatique. Légère avancée hier en Russie. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a rencontré son homologue russe pendant 3 heures, suivi d'un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Pompeo dit s'être mis d'accord avec le maître du Kremlin pour débloquer, je cite, le règlement du conflit en Syrie. En bref, encore à l'étranger, un autre accord entre civils et militaires, cette fois-ci au Soudan, secoué depuis des mois par des manifestations contre le pouvoir. Hier, les généraux et les représentants de la rue se sont mis d'accord sur une période de transition de 3 ans afin de préparer le transfert du pouvoir aux civils. Vous êtes né entre le 2 juillet 2000 et le 1er juillet 2001. En clair, vous avez donc 18 ans cette année. Vous avez la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne et vous aimez l'aventure. Ce qui va suivre va vous intéresser. Vous pourrez peut-être voyager l'an prochain en Europe gratuitement grâce au concours organisé pour la 2e année par la Commission européenne. Un concours qui se termine demain. Alors faites vite les précisions à Bruxelles de John Hauchstein.
L'année dernière, 30 000 jeunes Européens ont pu voyager gratuitement en Europe. C'est le cas d'Arthur Calauzet, étudiant belge en biologie, 18 ans quand il est parti.
J'ai été à Berlin, ensuite j'ai été à Vienne et ensuite j'étais à Prague. Ça en 7 jours, en dormant dans les auberges de jeunesse. Je dirais que oui, maintenant je me sens un peu plus européen, maintenant que je connais plus le continent, c'est sûr.
Un voyage en Europe pour se forger une identité européenne. Voilà l'objectif recherché par la Commission européenne qui offre pour cette 2e édition 20 000 billets de train supplémentaires. Pour en gagner un, vous devez avoir 18 ans cette année, avoir un passeport européen et répondre à quelques questions. Nathalie Van Distat, porte-parole de l'institution.
Le quiz sera en rapport avec des connaissances générales sur l'Union européenne, d'autres initiatives de l'Union européenne en faveur de la jeunesse. Je cite par exemple le corps européen de solidarité ou le programme Erasmus+, bien connu, mais aussi des connaissances liées aux élections au Parlement européen.
Et si vous répondez correctement et que vous êtes sélectionné, vous pourrez voyager en Europe entre le 1er août et le 31 janvier 2020 pour une durée maximum d'un mois. Mais attention, seuls les frais de transport sont pris en charge par l'Union européenne. À Bruxelles, Johanna Hauchstein, France Inter.
Et puis au chapitre élections européennes, nouveau psychodrame autour du traitement des candidats par les médias. Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde tiendront aujourd'hui une conférence de presse commune pour dénoncer, disent-ils, l'organisation, je cite, scandaleuse du débat de France 2 et France Inter, prévu le 22 mai prochain. Débat qui se tiendra en 2 parties. Première partie de soirée, les 6 candidats les mieux placés dans les sondages. Deuxième partie de soirée, 9 autres candidats, dont Debout la France, Génération et l'UDI.
Nicolas Dupont-Aignan, invité de France Inter, tout à l'heure à 8h20. 7h38, Sébastien, c'est une excellente nouvelles pour les diabétiques.
Ils vont bientôt pouvoir s'équiper d'un pancréas artificiel de fabrication française. C'est une machine qui permet de réguler elle-même la quantité d'insuline à injecter dans le sang sans avoir à s'en préoccuper. Un rêve pour les diabétiques. Plusieurs concurrents travaillent sur ce concept depuis des années. Le constructeur français Diabeloop vient de marquer des points dans cette bataille. Une étude publiée dans The Lancet en démontre l'efficacité. Véronique Julia.
Il y a 2 ans, une première étude prometteuse avait été réalisée à l'hôpital dans un contexte par conséquent très encadré. Cette fois, c'est au domicile du patient qu'on a mené l'essai, dans la vraie vie donc, en complète autonomie. Le dispositif a été expérimenté par 68 patients adultes pendant 12 semaines. Il s'agissait de patients diabétiques de type 1 depuis au moins 2 ans, traités avec une pompe à insuline depuis au moins 6 mois. Le résultat, c'est que la machine intelligente fait aussi bien et même mieux que le patient qui gère tout seul son diabète. Marc Julien est le dirigeant de l'entreprise française Diabeloop.
Là, on a la démonstration que même dans un environnement non encadré et non médicalisé, le système fonctionne très bien et permet d'améliorer significativement les paramètres physiologiques des patients. Ça permet, 1, de réduire le nombre d'hypoglycémie et 2, de rester pendant une durée plus longue en normoglycémie, c'est-à-dire avec une glycémie normale, ni trop haute ni trop basse. Donc ce qui fait que ça réduit tous les risques long terme, les risques rénaux, les risques cardiaques, les neuropathies qui sont liées au diabète de type 1 en particulier.
L'entreprise a déposé fin avril un dossier de prise en charge par l'assurance maladie. Elle espère que le système sera bientôt remboursé pour être accessible au plus grand nombre. Des essais cliniques débutent parallèlement chez les enfants de 6 à 12 ans dans deux hôpitaux français. Le diabète de type 1 touche 180 000 personnes en France.
Véronique Julia, les déchets plastiques n'ont plus de limite. L'explorateur Victor Vescovo vient d'en retrouver au fond de la fosse la plus profonde du monde, la fosse des Mariannes dans le Pacifique, à 11 km sous la mer.
7h40, on termine avec du sport, du basket américain. La NBA fait un carton en France.
Cette nuit débutaient les finales de conférence avec les Golden State Warriors face à Portland, très suivi aux États-Unis bien sûr, mais aussi en France, et ce même à 3h du matin. Après le boom des années 2000 sous l'impulsion de Michael Jordan, la NBA a su se relancer en France grâce notamment aux réseaux sociaux, Fanny Lechevestrier.
La force de la NBA est là aujourd'hui, c'est d'être le sport numéro un sur le numérique, explique Philippe Auclair, rédacteur en chef du site Basket USA.
La NBA a tout compris. Autant pour partager une image de Ligue 1, c'est impossible, tout est verrouillé et qu'ils font fermer des comptes, autant la NBA partage le maximum de contenu, que ce soit sur YouTube, Twitter, Facebook. C'est-à-dire que même quand il y a des sites entre guillemets illégaux, la NBA considère ça comme du marketing. Et c'est pour ça que ça tourne de partout.
Comme cette courte vidéo qui tourne en boucle depuis deux jours, on y voit le ballon rebondir à 4 reprises sur l'arceau du panier avant de rentrer et d'envoyer Toronto en finale à l'ultime seconde. L'extrait a déjà été vu rien que sur Twitter plus de 2 millions de fois. Et ce genre de séquence spectaculaire sert de produit d'appel pour séduire bien au-delà du sport.
Même si Tony Parker prend sa retraite, la NBA continuera de cartonner parce qu'il y a des vrais superstars. Ils vendent des chaussures, ils sont dans des clips, ils sont dans des films. Le français n'a plus besoin de suivre des français pour aimer la NBA.
Une passion qui se concrétisera en janvier prochain avec la tenue pour la première fois de l'histoire d'un match de championnat NBA à Paris.
Un dernier mot de cinéma, pas pour vous parler de Cannes, mais du dernier film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York, qui n'est jamais sorti en salle en raison des accusations d'agression sexuelle contre le réalisateur américain. Eh bien, le film en question sera projeté sur les écrans français à partir du 18 septembre prochain.